Hello à toutes et à tous, bienvenue sur la troisième saison de Journal Urbain, le podcast de l'art de vivre, qui réunit des témoignages de profils créatifs dans la food et l'art. Je suis Chloé Brunet et je vous invite avec ce projet indépendant à découvrir des personnalités singulières, inspirantes et engagées, des femmes et des hommes passionnés qui embellissent le monde d'aujourd'hui. Ici, le beau et le bon riment avec passion. Salut Lauriane, bienvenue sur Journal Urbain.
Salut.
Alors, t'en es pas à ton premier podcast, on t'a déjà entendu sur les thématiques de la mode, responsable notamment, de la beauté, entre autres, puisque tu fais partie des personnes qui sont derrière le micro comme moi et qui font des podcasts.
C'est une position d'ailleurs beaucoup plus agréable que d'être interviewée, je précise.
Oui, j'imagine. Pour avoir déjà été aussi de l'autre côté du micro quelques minutes, je préfère ma place actuellement. Alors, je te propose aujourd'hui qu'on se plonge dans la food, l'art et le voyage. Trois thèmes qui, je pense, font beaucoup écho à ton quotidien et tes passions. Et ça tombe bien car il s'agit bien évidemment des thématiques de ce podcast. On va également évidemment parler de la jeunesse de ton agence Plume Rédaction, des projets éditoriaux que tu mènes avec ton équipe, de tes débuts en tant que journaliste. On va également évoquer comment l'entrepreneuriat résonne en toi. Sans oublier la thématique du sport et particulièrement celle du vélo que tu pratiques au quotidien et qui t'a mené à lancer le projet Free the Cycle, dont tu nous parleras peut-être, et comment la femme peut s'émanciper et se libérer par la pratique du vélo.
Un très beau programme.
Ça te va?
On est parti.
Je te propose qu'on démarre par la food. T'as animé le podcast Manger de Louis Média, ainsi que la table Fronde, une table ronde organisée par le Fooding. Tu partages régulièrement sur Instagram tes dernières trouvailles culinaires, du dernier resto branché parisien au mythique sandwich aux œufs au fin fond du Japon. Plus récemment, puisque tu reviens du Japon, la food, ça fait partie, je pense, intégrante de ton quotidien, de ta vie, et tu le partages avec plaisir avec les personnes qui te suivent sur les réseaux. Première question un peu simple, quelle est ta recette phare, Lauriane?
C'est déjà difficile comme question. C'est la première question, comment je vais faire? Ma recette phare, que je cuisine ou que je mange?
Je te laisse choisir si, en fonction de quelle cuisinière tu es aussi.
Ah, j'adore cuisiner. Ce que j'aime dans la nourriture, dans le fait de la manger ou de la préparer, je pense que c'est la sensorialité. C'est la sensorialité et le temps qu'on passe à cuisiner un peu ses émotions. Quand on prépare un plat pour soi ou pour quelqu'un, on se projette dans la façon dont le plat va être perçu, va être dégusté, va être ressenti. Et ça permet d'y mettre de l'amour, de la passion, de la colère des fois. J'ai déjà été super en colère et je me suis mise à cuisiner parce que je voulais qu'on ait une discussion autour d'un repas et du coup tu mets des trucs un peu qui brûlent dedans. Ma recette phare en ce moment, j'aimerais bien apprendre à faire du cassoulet.
D'accord.
Mais à le faire bien. Et en fait, ça prend beaucoup de temps. C'est un plat que j'aime beaucoup manger et que j'aimerais bien maîtriser. Et sinon, je suis assez éclectique dans mes choix, tu vois. Je peux manger un plateau d'huîtres et puis ensuite choucroute et puis aussi essayer de manger un super plat camerounais. Et donc je suis assez
tout
assez
ça pas variée. Dans le même pas dans le même dîner.
Il y a aucun problème pour que ce soit dans le même dîner. Par
ok.
Il y a aucun souci. Il y a pas besoin de direction artistique.
D'accord.
En général, très bien. Dans les repas que j'organise. Et non après sinon ouais je reviens du Japon et j'ai découvert une sorte de recette, c'est comme une sorte de flan aux œufs salé, et on m'a appris à le faire, et donc j'aimerais beaucoup en refaire à Paris.
Ok.
Ça se mange un peu tout le temps, en entrée ou au petit-déj.
D'accord, et comment ça s'appelle?
Eh ben justement, je veux pas dire de bêtises, donc je peux regarder sur mon téléphone portable.
Allez.
Parce qu'en général, il le servait, il disait ce que c'était, et j'étais là, ok, je vais pas me risquer à le répéter. Donc, flan aux œufs, recette, Japon. Shawanmushi.
Ok.
Flan aux œufs japonais. Et en fait, à l'intérieur, si tu veux, c'est du dashi, une sorte de bouillon, un peu fumé, etc., qui a beaucoup de goût. Et en fait, tu fais chauffer le dashi à 80-85 degrés. Tu y incorpores tes œufs progressivement. Et dedans, tu peux mettre un peu des crevettes, des morceaux de poisson. Enfin, tu peux mettre des petits morceaux de choses qui te font plaisir. Et puis ensuite, tu filtres les œufs, tu perces les petites bulles qu'il y a au-dessus et tu cuis le tout à la vapeur. Et c'est trop bon.
Ok, Ça a l'air simple et en même temps un peu complexe.
Non, ça a l'air super compliqué. Ils étaient là, ouais, ça se fait en deux secondes. C'est là, non, ça a l'air
parce que tu l'as expliqué de manière très simple, mais ouais. J'imagine là, déjà de percer les petites bulles, j'ai mal à visualiser. Quel est ton rapport à la food? Peut-être la question un peu plus profonde que la recette. Comment est-ce que tu expliques cette passion?
C'est un rapport très intime. Quand j'étais petite, j'avais une relation un peu compliquée à la nourriture. Je pense que je mangeais pas énormément. J'étais un peu, j'étais très picky. C'est-à-dire qu'il y avait les trucs que j'aimais et les trucs que j'aimais pas, qui correspondent pas du tout à ce que les enfants aiment ou n'aiment pas.
D'accord.
Donc j'aimais beaucoup, typiquement, tout ce qui était fruits de mer, les abats, les pieds de cochon, les trucs comme ça j'adorais.
Ah oui, même petite.
Ah ouais, j'étais complètement dingue de ça. Salade de museau, tu vois, je pouvais pas aller au marché sans que ma mère m'achète de la salade de museau juste pour moi, tu vois.
D'accord.
Et non, ça a toujours été un truc assez important parce que ma mère est née au Cameroun, elle est arrivée en France quand elle avait 21 ans. Mon père, français, mais né au Maroc, etc. Donc, en fait, il y avait beaucoup d'influences différentes dans les plats que j'ai pu manger étant enfant. Et très vite, j'ai compris que la nourriture, c'était une question d'identité. Donc, ce que tu manges te définit. Comment tu le manges te définit aussi. Tes goûts alimentaires racontent quelque chose de ton histoire. Et donc, très vite, la nourriture, ça a été pour moi une manière d'affirmer qui j'étais. Donc typiquement, je pense que si j'étais à fond sur les pieds de cochon, les tripous et compagnie, c'est parce que je voulais peut-être montrer ma part française à certaines personnes. À une époque où j'étais peut-être pas forcément perçue comme une petite française comme les autres, tu vois, de par ma double culture. Oui, même en grandissant, tu vois, je détestais la nourriture camerounaise.
D'accord.
Même l'odeur, je ne pouvais pas.
Quand alors que tu en mangeais à la maison ou pas forcément?
Non, si ma mère en cuisinait, je mangeais pas. Je restais devant mon assiette jusqu'à m'endormir, quoi. Je pouvais pas en manger. Donc, et c'est arrivé beaucoup plus tard que je me suis mise à m'intéresser à la nourriture camerounaise. Enfin, parce que c'est délicieux. mais ça allait de pair avec la reconquête, on va dire, et l'acceptation de cette part de mon identité.
Ouais.
Donc, relation très intime avec la nourriture, très identitaire, très émotionnelle, et qui a beaucoup participé à la construction de ma personnalité.
Ouais, parce que du coup là, la food maintenant fait quand même partie intégrante. Je le disais en intro, ça je me trompe pas, je pense. Ça veut dire que bien manger, ça fait partie de ton quotidien.
C'est très important.
Comment est-ce que tu pourrais définir ton persona food au quotidien?
Waouh, c'est difficile. Mon persona food au quotidien, j'aime prendre des risques. C'est drôle parce que j'avais interviewé une chercheuse justement pour le podcast Manger et je lui posais la question de comment est-ce qu'on construit ses goûts alimentaires. Comment se fait-il que dans le monde il y ait des gens qui adorent les huîtres et d'autres qui détestent, tu vois, et même parfois des gens qui ont la même éducation, qui ont le même, enfin non, comment ça se fait? Et en fait elle disait qu'il y avait plusieurs facteurs. Le premier, c'est que déjà dans l'utérus de ta mère, selon ce qu'elle mange, tu vas avoir certaines, alors pas des odeurs ni des goûts, mais des flaveurs qui se transmettent au liquide amniotique et donc qui t'acclimatent et qui t'habituent ou non à certaines nuances alimentaires. Ensuite, ça continue dans le lait maternel, selon ce que la maman mange. Donc ça t'habitue déjà un petit peu à certains goût. Et ensuite, c'est énormément de construction sociale. Donc, c'est énormément de ce que tu vas manger va raconter de toi auprès d'un cercle social. Du coup, mon persona, c'est une sorte d'identité composite aussi. Je suis très portée sur le fait de découvrir des nouvelles saveurs parce que je pense que je me suis beaucoup construit une personnalité de risque tout, qui ose les choses, qui n'a pas froid aux yeux, et du coup ça allait bien de prendre le plat que personne veut manger à la carte et d'accord. de dire oui, je vais manger du poulet cru à l'huile d'olive et au blé parce que je suis dans un resto des Balkans et que c'est le plat des hommes qui allaient à la guerre, tu vois. c'est ce que j'ai fait une fois.
Toi, au restaurant avec des potes, c'est la personne qui prend le plus de risques et qui
ouais,
prend le
puis,
plat un
et
peu
puis
improbable.
Après, et puis je finis les assiettes et puis machin. Ouais, ça a été beaucoup ça. C'est toujours un peu le cas. C'est toujours un peu le cas, mais je suis beaucoup plus guidée aussi maintenant par le plaisir. et au-delà de prendre le plat le plus farfelu, j'ai quand même envie de manger un truc assez délicieux. Je fais assez attention aux endroits dans lesquels je vais. Pas dans le sens où j'ai besoin d'aller dans des trucs hyper chic et qui coûtent cher, mais pour moi, il faut que ce soit cohérent. Donc, si je vais dans un routier, je m'attends à manger un truc de routier. Je veux pas que ça fasse semblant. Je veux manger du céleri rémoulade. Je veux entrée, plat, dessert, fromage, café, verre de vin à 15 balles. Ouais. Je veux des frites à gogo, voilà. Et si je vais dans un super restaurant étoilé, bah pareil, je vais être peut-être un peu plus critique sur la façon dont les choses sont faites, mais je veux que ce soit ouais cohérent.
Est-ce que tu fais partie des personnes justement qui checkent en amont d'aller au resto les avis, la réputation, ou justement tu te laisses un peu porter par des découvertes comme ça inopinées ?
C'est bien qu'on parle de cette histoire d'avis Google, parce que en vrai, qui laisse des avis Google ? Enfin, pas moi. Pas moi, pas mes amis. Donc je me dis, est-ce que je dois vraiment faire confiance à des notes de gens que je connais pas ?
Que tu connais pas, ouais.
Je sais pas. Tu vois, il y a des endroits que j'aime bien. Alors, je pourrais pas forcément citer lesquels, mais il y a des endroits que j'aime bien qui ont pas des notes de dingue, mais parce que je pense que c'est des concepts qui sont pas forcément très bien compris.
Oui,
tu
ou
vois,
qui sont clivants. Et
qui sont un peu clivants. Mmh. Ouais, exactement.
En tout cas, c'est quand même un concept, je pense, qui impacte aussi beaucoup les restaurateurs, mais
ouais.
pas que, enfin, toutes les marques.
Non, mais attends,
marques.
Mais surtout, mais j'ai découvert un truc, c'est qu'on peut noter des restaurants, des lieux, donc des commerces, ce qui, bon, me semble, bon, pourquoi pas, logique. Tu peux aussi noter des lieux naturels. À un moment donné, je me disais que j'avais envie de visiter le Serengeti et de faire un trek et tout. Et donc je regarde et tout. Et là, en fait, je vois qu'il y a une note Google pour le désert.
Ah oui.
Avec les gens qui disent ouais, alors il a fait un peu chaud le matin. Alors c'est vrai que cette photo, tout le monde la prend, mais en fait, il y a plein de touristes derrière. Et j'étais là, attends, est-ce qu'on est en train de noter la nature pour
ouais,
dire si
match,
elle est assez cool ou enfin, j'étais là, waouh.
Parce qu'à la limite, tu peux noter un parc national parce qu'il y a une entrée, et du coup, il y a un organisme derrière
qui est bien géré,
c'est
managé et
voilà,
tout. Et j'étais là, bah en fait, je sais pas, c'est un désert.
Ouais.
Je vois pas bien ce que tu veux dire en fait là-dessus. Ouais, donc ouais,
ça gêne un peu les avis.
En fait, je trouve pas ces avis représentatifs de moi, ma
bien
façon
sûr.
de concevoir ce qu'est un lieu qui m'intéresse ou qui m'intéressera moins. Et j'ai dû laisser quelques notes dans ma vie de resto que vraiment j'ai adoré et j'ai dû mettre genre juste 5 étoiles et sans aucun commentaire. Et je faillis d'en avoir 5, tu
ouais.
vois, de toute mon existence, parce que j'ai dit genre ah bah tiens, j'y pense
ouais.
et je le fais, mais sinon non, je le fais jamais.
Donc toi, tu fais plutôt confiance au bouche à oreille de tes amis et de ton réseau.
Bouche à oreille, et même des fois en fait il y a plein de signes qui te permettent de savoir si un resto peut être sympa ou pas. Je sais pas, tu passes, est-ce qu'ils ont la bonne forme des verres, c'est quoi la carte des vins, ils travaillent avec qui, il y a quoi à la carte, ah tiens, et ouais, ils ont mis des asperges, c'est justement, ça vient d'être la saison, donc ça veut dire qu'ils doivent faire quand même attention à leurs approvisionnements. Comment est la nappe, la forme des assiettes, t'as plein de trucs en fait qui te permettent de te dire
ouais.
ah, tu sais quoi, j'ai bien envie de tester ce truc-là.
La
micro-investigation
en vitrine.
Ouais, t'as des éléments. C'est quoi la machine à café ? Tu vois, t'as quand même pas mal de... Moi, des petits trucs où même quand le restaurant est fermé et que je passe devant et que je le connais pas, je me dis, ah tiens,
ouais.
ils ont cette machine à café. Ça veut dire qu'ils font un peu attention à ce truc-là.
Ouais. Et ce qui aussi peut-être montre que c'est suffisamment rare, en tout cas, on n'a pas ce genre de resto dont tu parles à tous les coins de rue, peut-être un peu plus à Paris, mais en tout cas, que quand on retrouve la jolie nappe, la jolie machine à café, en tout cas qualitative,
ouais.
c'est que ça vaut le coup de
ouais,
d'aller tester. Quoi.
Quand tu as des vieilles personnes qui sont en train de manger, quand je dis des vieilles personnes, des personnes de plus de 70 ans, les gens de plus de 70 ans ont envie de manger des choses bonnes. Ouais. Et ils se laissent pas avoir par les sirènes marketing et le compte Instagram un peu sexy. Mmh. Et en général, pour moi, c'est très bon signe. Si je passe devant la vitrine d'un resto et qu'il y a des vieux à table, j'ai envie d'y manger.
Et là, tu parlais de ta maman, du coup, camerounaise, et de ton papa qui est né au Maroc. Toi, dans quel contexte t'as grandi sur cette partie food? Est-ce que c'était la food, ça faisait partie intégrante de ta famille, justement, et du quotidien? Et c'est tes parents qui t'ont inculqué ce goût-là aussi?
Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ouais. Tu sais, quand t'es enfant, t'es dans ta famille et t'as l'impression que toutes les familles c'est pareil. Ouais. Tu te dis pas qu'il y a des particularités dans ton éducation, dans la façon que t'as de manger. C'est plus quand tu compares ensuite en allant chez tes amis.
Bien sûr.
Tu dis attends, quoi?
Il y a Picard ici.
Vous avez le droit de manger dans la télé.
Ah oui.
Enfin, tu sais, des trucs où tu te dis waouh, en fait, t'es dans une autre dimension. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai pas grandi, tu vois, dans un. Enfin, c'était vraiment un foyer assez modeste / classe moyenne, tu vois. Donc, il faisait quand même hyper attention au budget des courses. Donc, j'avais pas des produits de grandes marques ou ce genre de choses. On n'avait pas de gâteau à la maison.
D'accord.
Donc, si tu voulais un gâteau, il fallait le faire.
Okay.
Donc, c'est pour ça que je maîtrise le gâteau au yaourt comme personne, avec tous les petits tricks où tu mets pas 3 pots de farine, tu mets 2 pots de farine, 1 pot de poudre d'amande. Enfin, voilà.
Uh-huh.
Ouais. Donc, non, c'était un truc où ma mère cuisinait beaucoup. C'était très rarement des plats déjà préparés, c'était vraiment elle cuisinait tout et c'est une cuisinière hors pair. Et ça, je m'en suis vite rendu compte aussi en allant manger chez mes amis. J'étais là, c'est pas très bon.
Ça, c'est déjà un marqueur fort, en fait, d'avoir des parents qui cuisinent tout.
Ouais, ouais.
Versus parfois des familles où on n'a pas le temps et du coup, c'est du réchauffé ou du...
Complètement. Mais je pense qu'il y a un truc où des fois, t'as pas le temps et des fois, t'as un peu plus les moyens. Parce qu'en fait, acheter des plats préparés et tout, mais des fois, ça coûte un peu plus cher. Et c'est vrai qu'elle faisait tout, from scratch. Quand j'y repense, je ne sais pas comment elle faisait. Pour travailler à temps plein, s'occuper de 3 enfants et cuisiner des trucs tous les soirs.
Avoir des idées, ouais.
C'est vraiment pour moi, c'est un grand mystère de la vie. Mon père, il cuisinait moins, mais alors quand il s'y mettait, c'était le branle-bas de combat. Je me souviens, tous les ans à peu près, il décidait de faire la pastilla aux pigeons. Et alors là, il fallait qu'il s'enferme dans la cuisine pendant 3 jours. Il fallait plumer le pigeon, il fallait le vider, il fallait le truc. Il fallait pas qu'on rentre dans la cuisine.
D'accord, ouais, c'était un gros truc.
C'était un gros truc. Vraiment, il prenait ça comme un marathon, tu vois.
D'accord.
C'était vraiment... Et puis du coup, à un moment donné, la pastilla était prête. Évidemment, pas à l'heure du dîner. Et la pastilla est prête, il faut la manger maintenant. Donc peut-être qu'il est 7 heures du matin. C'est le moment.
C'est
la pastilla, elle est là, elle sort du four, en fait. Et il est là, en nage. Et tu manges une délicieuse pastilla au pigeon, il n'y a pas de problème. Mais c'était plus des trucs un peu... C'était du théâtre, tu vois.
Ouais.
Quand mon père se mettait à faire la cuisine. Et ma mère, c'était beaucoup plus quotidien, mais avec toujours des choses extrêmement savoureuses, inventives. Enfin, elle arrivait à te faire des trucs de dingue avec un frigo vide.
Trop bien.
T'es là, waouh, ok.
Et donc, ça, elle a réussi à te l'inculquer. Maintenant, aujourd'hui, toi, au quotidien, tu cuisines avec trois francs 6 sous, ce que t'as dans le frigo, ouais.
Complètement. D'ailleurs, elle m'avait fait la réflexion récemment en me disant, t'as vraiment chopé ce truc de cuisine instinctive. Tu vois, je suis pas une recette. J'ouvre le frigo, je regarde, je sais ce qui va aller avec quoi. Et même si j'ai jamais testé quelque chose, en fait, je me dis, ça va marcher.
Ça va,
ouais. Ouais, ouais. Quand j'étais ado et que j'ai commencé à me préparer mes plats pour le midi ou des fois je rentrais un peu plus tôt de l'école et du coup elle me disait, tiens, prépare un truc pour le soir. Je me souviens, je tentais des trucs, j'avais fait griller je sais plus quoi, je déglaçais un machin au jus d'orange et ça faisait une trop bonne sauce pour aller avec les haricots verts et tout. Et tout le monde était là, qu'est-ce qui se passe, tu vois?
Mal, ouais.
Et, j'ai un rapport à la cuisine où, dès que je sais où sont les ustensiles, etc., je me sens chez moi.
Okay.
Donc, même quand je suis invitée, par exemple, chez des amis, très vite, je fais « Attends, ça c'est où ? Ça c'est où ? Ça c'est où ?» Et je me sens à l'aise dans une cuisine, tu vois. Je pense, comme quelqu'un qui joue d'un instrument. T'as un pianiste, il se met sur le piano de la gare, il retrouve en fait un peu ses marques.
Toi, c'est ton terrain de jeu, la
cuisine. Ouais, la cuisine, je me sens bien. Une fois que j'ai demandé où se trouvaient les choses, je sais comment me débrouiller. Et j'ai pas peur ni des ingrédients ni de ce que je connais pas. J'ouvre les trucs, je sens, je goûte et je me débrouille, tu vois.
Et peut-être que c'est aussi la faculté à choisir le plat un peu weirdo sur la carte.
Peut-être,
du coup, tu t'habitues à des combinaisons un peu originales.
Peut-être.
Aussi,
bah après, manger et cuisiner, c'est très différent. J'ai pas mal d'amis qui adorent manger, mais qui cuisinent pas du tout, par exemple. C'est pour moi, c'est deux choses un peu différentes. Après, quand on cuisine, en général, on mange. Mmh. Et quand on mange, on cuisine pas toujours.
Pas forcément, ouais. Je suis d'accord.
C'est un peu, c'est deux mondes qui cohabitent.
Et est-ce que tu pourrais, là tu dis donc que la cuisine c'est ton terrain de jeu, est-ce que tu pourrais envisager ou t'aurais pu envisager un jour d'orienter ta carrière vers la food, même si tu en parles évidemment à travers tes interviews et tes
pas
projets?
Pas trop, non. Parce qu'en fait, j'aime tellement ça que je me vois pas en faire quelque chose de professionnel. Mmh. C'est un peu comme... tu vois, je sais pas, quelqu'un qui est passionné de cinéma et qui du coup devient acteur ou actrice. Et ensuite, il peut plus aller au cinéma de façon décontractée.
Oui.
Parce que, ah oui, mais je sais très bien que le monteur, c'était bidule. Ah, j'avais fait ce casting, mais ils ont pris. Et du coup, tu as une lecture, en fait, de la chose qui devient professionnelle aussi. Oui. Et ça devient difficile de lâcher prise. Et j'ai jamais eu envie de trop d'écrire sur la food ou d'interviewer des chefs, etc. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'un jour de me retrouver au restaurant et d'avoir un rapport qui est un peu, qui est pro.
Ouais, décrypter.
De décrypter, ouais. De comprendre. J'ai juste envie de me faire plaisir, en fait.
D'accord, ouais.
Et pour moi, c'est un moment de grande joie, mais aussi de grand loisir.
Ouais.
Tu vois, c'est. Et comme j'ai tendance à transformer tous mes loisirs ou les choses que j'aime bien, un peu en obsession, surtout si ça devient du travail, ça, j'ai pas envie que ça le devienne. Mmh. Tu vois, j'ai envie que ça reste léger et tranquille.
Donc, si on veut t'entendre quand même parler de food, il y a eu ce podcast Manger.
Il y a le podcast Manger, ouais.
Mais ce sera pas forcément la thématique phare de tes projets.
Peut-être qu'à un moment donné, j'écrirai, tu vois, un bouquin autour de. Des choses sont possibles.
Oui.
Mais disons que pour l'instant, je préfère, tu vois, oui, partager des adresses et que ça reste quelque chose d'un peu plus léger.
Ouais, plaisir.
Mais après, j'ai adoré animer le podcast. Tu vois, manger, chaque épisode, je répondais à une question qu'on se pose sur la façon dont on se nourrit. Et j'ai adoré justement plus ce côté un peu scientifique.
Mm-hmm.
Tu vois, où tu te poses vraiment une question scientifique, / sociologique, enfin, culturelle. Mais où vraiment, il y a des questions que je me posais, et où je me suis dit, c'est bien qu'on ait pu y répondre. Parce que je savais pas.
Ouais, c'était éducatif, quoi.
Ouais, exactement. C'était un peu plus éducatif, ouais.
Écoute, je te propose qu'on finisse cette thématique par tes bonnes adresses. Justement, là, tu évoquais quelques restos qui ont eu le droit d'avoir 5 étoiles de Lauriane Mélière.
Wow.
Ce sera peut-être pas cela, mais est-ce que tu aurais des bons restos à nous partager?
Oui, des bons restaurants. Alors, je peux parler... Bar, ça compte? Comment ça marche?
Oui, si tu veux. Hein. Si on peut manger un peu. Si la nourriture, c'est pas juste
du
chardonnay.
Alors, on peut commencer par un restaurant à Tokyo que j'ai adoré puisque je reviens du Japon. Ça s'appelle Bunon, B-U-N-O-N. C'est tenu par un couple. Ils sont que deux. Ils gèrent tout dans le restaurant. Et c'est une sorte de izakaya bistronomique, tu vois. Décor un peu maison tradi avec une sorte de puits de lumière au milieu. C'est un peu le bazar, il y en a de partout et tu manges du poisson cru, mais aussi tu vois, la dernière fois j'avais pris plein de plats différents sur la carte parce qu'en fait le menu il l'écrit tous les jours à la main mais en japonais, donc il y a pas du tout de traduction, et comme c'est écrit à la main tu peux pas vraiment scanner pour Google Translate pour savoir ce qui est écrit, donc j'étais là, je pointais des trucs sur la carte et puis c'est au pif.
Quoi, ouais.
Et qu'est-ce que j'ai mangé la dernière fois, c'était de la noix de Saint-Jacques crue marinée dans du saké avec de la poire, c'était dingue. Ensuite, il avait fait une sorte d'assiette de sashimi J'ai mangé des ginkgo nuts, donc c'est des noix de ginkgo. C'est, tu sais, cet arbre qui fait super jolies feuilles, ou des fois, tu sais, on en fait des boucles d'oreilles et tout. Et en fait, cet arbre produit des noix, et en fait, si tu les grilles sur une poêle, elles s'ouvrent un petit peu, donc il les a plongées dans du sel, et c'était, mais genre, délicieux. Donc c'est Izakaya Bistronomique, donc vraiment un truc très populaire, et il a une sélection de vins nature, mais du feu de Dieu. Vraiment des trucs de l'espace, des trucs qui sont difficiles à trouver en France.
Donc, et des vins français ou t'as trouvé aussi des vins
Il a des vins aussi japonais, mais du monde entier. Mais ouais, il est assez passionné par l'auteur français. J'ai trouvé des trucs du Jura où t'es pas sans... Ouais, des bouteilles qui sont introuvables en France.
Introuvables en France, ouais.
Donc, Bunon. Et en France, je pense que je parlerai du Doyenné, qui est à Saint-Vrain. Dans le 91. Est-ce que c'est dans le 91? Ouais, je crois que c'est dans le 91. Ouais, dans le 91, qui est une ferme restaurant ouverte par deux Australiens. Et où, en fait, ils ont, pendant 5 ans, ils ont construit donc cette ferme, enfin, le potager de leurs mains. Avec un verger, etc. Et aujourd'hui, donc, tous les fruits et tous les légumes qui sont cuisinés dans le restaurant viennent de leur ferme, de leur exploitation. Le cochon, c'est leur cochon, donc c'est une race très spécifique de cochon noir qu'ils élèvent dans la forêt à côté. Ils ont des poules. Enfin, c'est vraiment un truc où il y a beaucoup de restaurants aujourd'hui qui disent ouais farm to table, etc. Parce qu'en fait, ils font pousser 3 trucs de basilic dans l'arrière-cour, tu vois. Là, c'est un autre projet, quoi. C'est un autre modèle de restaurant. Et j'aime beaucoup cette idée d'expérimentation perpétuelle, parce qu'en fait, pour trouver un rythme de croisière avec une production agricole en parallèle, ça prend du temps, parce qu'en fait, tu vas tester des choses, et puis en fait, tes tomates, elles sont pas comme t'avais pensé qu'elles seraient, puis la production est pas exactement. Donc en fait, tu dois gérer tellement de paramètres différents. C'est beaucoup d'adaptation. Et au final, tu as un menu gastronomique qui est, je trouve, exceptionnel, avec une sensibilité et une poésie dans l'assiette qui est folle. Donc, j'aime beaucoup y aller. Et en plus, ça fait comme une sorte de petit voyage. Tu vois, quand tu y vas, c'est cool. Donc ouais, je pense que si j'avais cité 2 adresses food, ce serait celle-là. Bunon à Tokyo et le Doyenné à Saint-Vrain.
Et bah parfait, merci beaucoup pour cette adresse. On les retrouvera du coup sur le compte Instagram de Journal Urbain pour s'immerger dedans. Je passe du coq à l'âne. Maintenant, on va passer à la thématique de l'art, et plus particulièrement l'art d'écrire, puisque tu as démarré ta carrière en tant que journaliste. Tu es passé dans différentes rédactions, de Glamour au Nouvel Obs, avant de fonder en 2018 l'agence Plume, qui est spécialisée en conception rédaction et en stratégie éditoriale au service de marques et d'institutions. Vous êtes maintenant une petite équipe à travailler sur de nombreux projets. Je voulais pas du coup écorcher les différents projets qui sont parfois pas forcément toujours publics. Donc, quels sont ces projets, Lauriane? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples pour nous montrer la diversité aussi d'activités?
Oui, bien sûr, je peux faire ça. C'est bien qu'on en parle, parce que là, j'ai jamais été très. Alors, évidemment que si je parle de mon activité, mais il y a beaucoup de personnes qui savent pas exactement ce qu'on fait au quotidien. On est assez discret et discrète en termes de communication. Le site, il est un peu mystérieux. Pour accéder à nos projets, il faut un mot de passe, donc il faut nous le demander. J'ai toujours eu cette volonté d'être très très en retrait par rapport à ce qu'on fait, et plus laisser les projets parler d'eux-mêmes et le bouche à oreille faire son office. Mais ouais, aujourd'hui, on accompagne pas mal de marques, de groupes et d'institutions dans leur prise de parole. Il y a d'un côté la stratégie éditoriale et de l'autre côté la rédaction. Et là, récemment, par exemple, on travaille beaucoup avec le groupe Accor. Ils ont plusieurs marques comme Sofitel, M Gallery, Fairmont, Raffles. Et là, ils ont lancé une nouvelle marque qui s'appelle The Purist, qui est en fait une nouvelle offre de comme une sorte de thalasso, mais holistique, hyper poussé, où ils mesurent ton sommeil pour te réapprendre à dormir, ils te font des programmes de sport et tout. Et donc, on a travaillé sur tout le positionnement éditorial de cette offre, toute la tonalité de ces nouveaux lieux. Comment est-ce qu'on appelle les soins? Est-ce qu'on appelle ça des soins, des programmes, des cycles, des séquences? Comment est-ce que le personnel doit s'adresser aux clients au téléphone ou quand il y a un problème ou quand on leur dit au revoir? Quels sont les textes qui sont écrits dans le menu de la carte au restaurant pour expliquer ce qu'est la cuisine énergétique? Quels vont être leurs newsletters? Enfin, tout en fait.
Ah oui, là c'est vraiment c'est pas juste écrire une newsletter ou écrire le discours d'entrée d'un.
Non, c'est
là,
vraiment.
Au-delà de ça, c'est presque c'est... de la com ou de la ou du
ouais,
marketing
c'est...
quoi. Ou...
En fait. Si tu veux, nous, on s'appuie sur les services com et marketing qui doivent avoir une stratégie en place, claire et bien définie, pour justement mettre en pratique un ton. C'est-à-dire que tu vas avoir quelqu'un qui pense à la réflexion, à l'idée, à ce que... Voilà, le marketing com, ils vont dire, voilà ce qu'on a envie de dire. Et nous, on arrive pour délivrer le message... avec un ton identifié et identifiable et pour être la voix d'une entité. Par exemple, si là je parle au micro, ben les gens qui me connaissent, ils vont dire ah, je reconnais la voix de Lauriane, et toi ils vont dire bah je reconnais ta voix. Ça peut pas être la voix de quelqu'un d'autre. Et nous c'est un peu ce qu'on essaye de faire pour nos clients, c'est de dire bah même si on enlève votre logo, on doit savoir que c'est vous, parce qu'il y a tel marqueur, que vous employez tel langage, que vous parlez de cette thématique de telle façon, et que votre vision du monde, elle se retranscrit dans vos textes et dans vos mots comme ça. Et donc pour ça, bah, tu peux produire une charte éditoriale ou tu peux écrire les textes directement. Et donc ouais, on fait beaucoup beaucoup de choses avec Accor en ce moment. On travaille avec American Vintage sur leur magazine. Bah tiens, regarde, il est là.
Trop bien.
Donc c'est leur magazine, c'est un magazine qui était en ligne et qu'on a animé pendant quasiment plus de 4 ans et qui est maintenant un magazine imprimé. Donc c'est vraiment le tout début, qui est en français et en anglais, où on va parler un petit peu de, tu vois, il y a de la food, où on va parler un petit peu des tropismes de la marque au-delà du produit. Au-delà du produit mode, donc on va parler de des villes dans lesquelles ils s'implantent, on va parler des designers qu'ils aiment, on va parler de talents émergents, etc. Il y a pas mal d'interviews aussi. Pour American Vintage, on gère quasiment 90% de tout ce qu'ils écrivent, que ce soit en print ou en digital.
Ouais, vous créez vraiment, j'ai l'impression, qu'est-ce qui fait la singularité d'une marque, au-delà de juste les produits ou les services qu'ils vendent?
En fait, c'est comme si on était des rédacteurs ou rédactrices en chef externalisés. Mm-hmm. Tu vois, aujourd'hui, tu vas avoir un magazine comme L'Étiquette, Marie-Claire, Elle. C'est des voix très spécifiques, mm-hmm. avec des formats, des rendez-vous, une manière d'écrire qui est bien particulière. Et ben nous, en fait, on va être ça, mais pour les marques. Donc tout leur message, etc., ça passe par nous, et nous on maîtrise, on tient les rênes de leur ton pour que ce soit toujours très eux en fait. Et ce très eux, qu'est-ce que c'est et comment on le démontre? Bah après on a plein d'outils pour le faire, mais du coup et puis ça leur enlève aussi une épine du pied, parce que enfin l'éditorial c'est une vraie compétence, et tout le monde ne peut pas forcément écrire de la bonne façon ou de la façon juste, et tout en intégrant aussi des problématiques justement marketing et communication. Donc voilà. Donc on travaille aussi pas mal avec qu'est-ce que je peux te citer? Là, on va travailler avec Bompard sur la refonte de leur magazine papier. On travaille avec le champagne Bollinger, très intéressant. Donc on est allé en Champagne pour visiter leur cave et tout, c'était assez exceptionnel. Et là, pareil, on est sur beaucoup de discours stratégiques, de nommer certaines de leurs cuvées, d'écrire les manifestes de cuvées un peu exceptionnelles qui sortent. Ils ont lancé un concept qui s'appelle Maison Bollinger. Donc, en fait, ils vont dans plusieurs villes du monde. Ils ont commencé à New York, là, le 18 septembre. Ils vont louer, en fait, des maisons dans le monde entier, qu'ils appellent donc la Maison Bollinger, où ils invitent des gens à expérimenter le champagne, les accords mets vins, etc. Et donc, on a écrit pas mal des discours qui sont prononcés là-bas, pas mal des textes aussi qui sont imprimés sur les murs de ces maisons, etc. Puis après, je peux en citer plein. On travaille avec Club Med beaucoup, avec Cointreau, Comptoir des Cotonniers, Dior, avec les éditions de parfums Frédéric Malle, les Galeries Lafayette, l'horloger Girard Perregaux, la marque Icicle avec Jean-Paul Gaultier, Kaway, le groupe Kering, la marque La Prairie, Lacoste, Lancôme, Le Bon Marché, Maison Kitsune, le champagne Mercier, Nike, la marque Octobre, Oh My Cream, Paul Smith, le chocolat Plaque. Je suis allée à leur dîner là récemment, ils ont fait un premier dîner pour le off du chocolat. Qu'est-ce que c'était bien. Paul Smith, Picard, où on écrit tous les textes de leur magazine qui est en magasin. La marque Rouge, les couverts Sabre, Simone Perel, The North Face, Chocolat Valrhona. Enfin voilà, il y a plein de choses.
Il y a un peu de monde, ouais.
Il y a du monde, hein. Et tous ces gens-là parlent de façon différente, veulent dire des choses différentes, et ont des personnalités différentes. Voilà. Donc il faut maîtriser tout ça et savoir comment on s'adresse aux gens à chaque fois quand on se met dans leurs chaussures.
Et comment on fait justement quand on est toi ou ton équipe pour trouver le ton et justement switcher d'un projet à un autre, passer de Accord à American Vintage, c'est pas du tout le même ton, c'est pas les mêmes clients,
ouais.
Pour trouver justement ce champ lexical et cette tournure de phrase et cette manière de réfléchir.
Franchement, c'est quelque chose qui se ressent. Moi, je trouve que ça se positionne un peu dans le ventre.
D'accord.
Tu sens en fait là où tu dois aller. Je sais pas, de la même façon que un directeur ou une directrice artistique. Quand on lui demande par exemple de faire le mood board d'un shooting pour Dior ou pour la marque Octobre, en fait il va sentir, il va dire ah tiens, en fait avec tous les éléments de cette marque, avec son ADN, avec qui elle est aujourd'hui, voilà ce qu'on pourrait faire. Et ça vous dirait pas qu'on aille là dans les Pouilles, il y a un petit village où il y a tel mec qui a une super gueule, machin, on pourrait aller le shooter pour. C'est un truc que tu ressens. Ça, ça reste quelque chose qui a trait à l'artistique. Donc c'est pas, c'est là où je dis que c'est, on s'appuie sur des services comme communication et marketing, mais c'est pas de la communication et du marketing. Nous, au final, ce qu'on veut, c'est des textes forts, puissants, où les gens ressentent des choses ou apprennent des choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille avec quasiment uniquement des journalistes, des écrivains et des poètes, et pas des communicants, parce qu'on s'intéresse à qui va lire le texte. Quel est le niveau de connaissance de cette personne sur telle et telle thématique. En fait, à quoi le texte va servir? Au-delà de blablabla, on est les meilleurs, à quoi le texte sert? Et est-ce qu'il va pas prendre du temps pour rien aux gens qui le lisent? Donc, on essaye vraiment d'avoir des textes qui sont assez forts, anglais, assez puissants, assez différenciants. Pas des textes en fait qui sont là pour remplir pour brasser de l'air. Et donc comment on fait pour déterminer
quel est le processus créatif pour alors, j'imagine qu'il est différent d'un projet à un autre, hein, mais est-ce qu'il y a des bonnes étapes à passer pour
tu te poses. Alors déjà, ça commence toujours par beaucoup de discussions avec le client. Donc on leur pose plein de questions en fait sur pour eux, quelle est leur marque, tu vois, quelle est leur marque, comment ils se positionnent, à qui ils ont envie de s'adresser, à quoi ressemble leur client aujourd'hui, mais qui pourrait être leur client demain, leurs challenges, leurs difficultés, les thématiques qui les animent, comme si on rencontrait quelqu'un. Comme si on rencontrait quelqu'un. On se dit, nous, une marque ou une personne, c'est pareil. Au final, la marque va écrire pour elle-même. Donc, il faut qu'elle ait un ton qui soit le ton comme d'une vraie personne. On essaie de définir la personnalité de la marque, au final.
C'est la phase interview.
Donc, on pose plein de questions qui, peut-être, parfois, ont l'air un peu... On se dit, mais tiens, à quel moment on va parler de texte? Non, mais parce qu'en fait, on essaie de comprendre leur personnalité, leur façon de fonctionner. Et une fois qu'on a compris, en fait, comment ils fonctionnaient et qui était cette marque, là, on peut se dire, par exemple, pour Club Med, on a imaginé récemment leur charte éditoriale. On a défini ensemble leurs piliers de communication. Ils nous ont dit voilà, nous, ce qui est important pour nous, c'est les thématiques de développement durable, c'est la montagne en été et la montagne en hiver, c'est le all inclusive où t'as besoin de te soucier de rien, et c'est voilà. Donc on se dit ok, il y a ces thématiques là, comment est-ce qu'on en parle? Bon, bah all inclusive déjà, est-ce qu'on a envie de dire all inclusive? Pas forcément. Est-ce qu'on a envie de dire tout compris? Non plus. Comment est-ce qu'on pourrait raconter ce all inclusive différemment? Et ensuite on brainstorm entre nous en fait. On brainstorm entre nous, on lit des articles, on saisit un peu l'air du temps. C'est ça aussi le fait d'être journaliste, c'est qu'en fait on est constamment connecté à ce qui se passe dans le monde, à des nouvelles manières de s'exprimer, à des nouvelles manières de raconter des histoires. Et donc ensuite, à un moment donné, on leur propose une façon de s'exprimer qui pour nous correspond à une époque, un espace, un temps et une cible éditoriale.
Puis vous avez aussi, vous, chez Plume, votre identité.
Aussi,
même si vous allez porter vos compétences.
On a notre regard. C'est là où je dis que c'est de l'artistique. C'est-à-dire que le ton qu'on propose, c'est pas une science exacte.
Bien sûr.
C'est le ton auquel on croit. Et à un moment donné, il faut s'engager. Tu vois, il faut s'engager. Il faut y aller à fond. Les ventres mous et les tons un peu tièdes, au final, ça ressemble à tout le monde. Et on leur dit, il faut être capable de prendre un petit peu des risques pour avoir une voix qui est différente et qui sort du lot. Ça, les marques le comprennent de plus en plus. Et c'est chouette.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles, j'imagine, ces marques viennent te voir.
Exactement. Ouais. C'est parce qu'ils ont envie d'avoir une voix qui est différente et d'avoir des accroches qui sont différentes et d'avoir des textes ou une stratégie éditoriale qui va sortir de l'ordinaire ou en tout cas être un peu plus sur mesure que l'évident.
Mmh.
Tu vois, American Vintage, on pourrait se dire, c'est une marque, ils font des basiques, hein, tu vois, ils vont faire des pulls, des jeans, etc., avec des couleurs un peu sympas, mais ça reste une marque qui fait des essentiels.
Mmh.
C'est pas une marque où dans la direction artistique du vêtement, dans le dessin du vêtement, t'as une ils vont pas dans tous les sens. On pourrait se dire, on fait des textes hyper simples. Pas du tout. En fait, la personnalité est du fondateur et des équipes. Ils sont hyper portés sur l'art, sur les talents émergents. Ils sont partenaires du festival de mode et de photographie et d'accessoires de mode ailleurs depuis quasiment 7 ou 8 ans. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont hyper sensibles à tout ce qui est artistique. Et donc, en fait, on leur a proposé un ton qui est beaucoup plus littéraire et beaucoup plus poétique que ce que ferait une marque de mode classique, tu vois, qui parle de ses produits, etc. Donc, on les fait rencontrer dans les interviews, dans les sujets qu'on leur propose. On leur propose toujours des choses assez en décalage et assez, assez poussées.
Qui, j'imagine, du coup, leur plaisent carrément.
Ouais, exactement, ouais. Qui leur plaisent beaucoup. Et où surtout, en fait, maintenant, on a réussi à agréger une communauté autour d'eux, de gens qui ont justement le même regard un petit peu sur les choses et sur la vie. Alors que vraiment, le vêtement en lui-même, c'est un vêtement qui s'adresse à tout le monde. Mais dans la communication et dans la façon de raconter leurs histoires, on a ce pas de côté qui est un petit peu plus sensible, qui est un peu plus poétique. Dans les mots qu'on choisit, dans les tournures de phrases, on n'est jamais commercial, tu vois, avec American Vintage.
Ouais, vous allez creuser un peu comme à la manière d'un DA de marque de mode qui irait creuser dans les archives du premier DA fondateur de la marque, d'aller trouver un peu l'identité profonde de cette marque qu'on n'aurait pas forcément vu en vitrine quand
exactement.
On passe en tant que client devant un magasin.
C'est ça, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, au sein de l'équipe, on a Inès qui a eu une formation de documentaliste et d'archiviste avec qui on va pouvoir aller fouiller parfois dans les archives de marque. Je me souviens d'un projet en particulier qui était assez fascinant avec une marque qui s'appelle Au Départ. Et en fait, Au Départ faisait partie d'un consortium qu'on appelle les Famous Four. Et les Famous Four, c'était Louis Vuitton, Moana, Au Départ et aux États-Unis. 4 marques de maroquinerie qui se sont lancées à peu près à la même période, mais par exemple, Louis Vuitton est arrivé après. On a l'impression que Louis Vuitton, c'est vraiment la maison historique et tout. Et en fait, Au Départ existait avant Louis Vuitton. Et donc, tu avais ces 4 maletiers / maroquiniers qui se tiraient un peu la bourre. Ensuite, il y a eu un petit stress économique. Donc, il y a que les plus forts qui ont résisté. Au Départ, on faisait partie. Et puis ensuite, la marque est morte dans les années 60, au milieu des années 60. Mais ils faisaient des malles incroyables, des sacs sur mesure. C'était la marque de voyage de Saint-Exupéry, par exemple. Donc, quand il prenait son avion pour aller se balader, etc., il avait des malles Au Départ et des sacs Au Départ. Et donc, en fait, la marque est morte dans les années 60. Et puis, elle a été rachetée en 2018, je crois, par l'ancien PDG de la marque D-Squared. Et donc, en fait, ils se sont dit, on veut relancer la marque. Mais avec donc toujours cette connotation très luxe, très grand voyage, un peu Orient Express. Et ils ont commencé à dessiner les premières collections. Et le mec disait, non, les collections, ça va pas, ça va pas. Je retrouve pas la marque, je retrouve pas la marque. Et donc, ils sont venus nous chercher en nous disant, en fait, on se rend compte que les designers qu'on a embauchés pour redessiner une première collection, en fait, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'est vraiment la marque aujourd'hui. Il y a eu plein de produits. Alors, à ce moment-là, ils écumaient les ventes aux enchères pour racheter leurs pièces d'archives, hein, qui étaient dans le monde entier, pour se reconstituer un stock, étudier un fermoir, la qualité d'un cuir, retracer l'historique des logos qui a vachement évolué. Et en fait, ils ont dit, on a besoin aujourd'hui d'un texte, mais même d'un corpus, en fait, historique qui explique ce qu'a été au départ. Et comment au départ, comment l'ADN au départ pourrait se traduire aujourd'hui, en 2018. Et donc, je me souviens être allée à Milan, puisque le siège était à Milan. Je me souviens être allée à Milan et m'être plongée dans ces archives pour justement étudier les sacs, regarder le nécessaire de toilette de Saint-Exupéry où tout avait été gravé à la main, regarder toutes les malles sur mesure qu'ils faisaient, étudier l'évolution des logos, retrouver les vieux catalogues dans lesquels tu pouvais commander certains accessoires, etc., pour comprendre en fait c'était quoi cette marque. Et j'ai découvert des trucs de dingue. Et puis ensuite, je suis rentrée dans une sorte de spirale où je me suis mise à acheter les bouquins qui sortaient à cette époque. Et donc, à cette époque, t'avais Émile Zola qui parlait du Second Empire. C'était la démocratisation du chemin de fer. C'était le début des grands voyages, justement, aux États-Unis. C'était le moment où les malles qui, avant, étaient rondes sur le dessus devenaient plates parce qu'on commençait à les empiler, parce qu'on voyageait de plus en plus. Il y avait un truc de dingue autour juste de la notion de voyage et des Européens qui, pour la première fois, peuvent entreprendre des grandes traversées, des grands trucs comme ça. Donc, c'était l'histoire, en fait, d'une marque qui aide les gens à être libres et à voyager avec leurs affaires.
Ouais, donc, finalement, pour une marque, justement, qui avait perdu ses repères et son historique, là, tu découvrais un
monde... Je découvrais des trucs de dingue. Ouais, c'était la folie. En tant que journaliste, c'était la mine d'or. Et donc, on a produit un énorme corpus de textes qui se lit comme une histoire pour comprendre ce qu'était au départ à cette époque et pour, en fait, plonger les personnes qui le lisent dans le Paris de l'époque, dans ce fourmillement, dans le début du tramway à Paris, dans tu vois, leur première boutique, elle était à Gare de l'Est, à l'époque où Gare de l'Est était en train d'être construite. Donc on essaye d'expliquer cette effervescence parisienne et cette société qui commence à voyager avec le début de la grande ère industrielle, etc. Et puis ensuite on fait une ellipse temporelle où on dit, bah en fait, aujourd'hui, cette effervescence, ce fourmillement, c'est quoi? C'est qui? Est-ce que c'est toujours le voyage qui tient au trip les gens? Ou est-ce que le voyage, maintenant, il n'est pas aussi spirituel, etc.? Donc, on a essayé d'expliquer, voilà, ce que pouvait être au départ aujourd'hui et cette émotion du moment où la marque s'est créée, bah, à quoi elle ressemble en 2018. Et en fait, ça les a énormément aidés et c'est via ce corpus de texte un peu fondateur qu'ils ont pu créer les premières collections en sachant, en fait, qui ils étaient.
Ouais.
Et donc, ce corpus de texte est devenu un peu la pierre angulaire de tout. C'est-à-dire qu'ils obligeaient tous les nouveaux collaborateurs et toutes les nouvelles collaboratrices à lire ce texte d'abord, parce que sinon, bah, chacun interprète la marque un peu comme il le veut. T'as quelques dates, une frise chronologique, on te balade un peu dans les archives, et puis ensuite, tu te fais une image de la marque qui est pas forcément la vraie image. Et c'est pour ça que ça partait dans plein de directions différentes. Et là, au moins, ils étaient tous au diapason et c'était super. Donc voilà, ça peut aller quand même aussi loin.
Ouais, c'est là, pour le coup, c'est vraiment très stratégique. Enfin, écrire un manifeste, là, t'as presque écrit les valeurs de la marque pour que justement tu mettes tous les collaborateurs et les collaboratrices dans le même bateau.
Ouais.
Ça va au-delà pour moi de l'éditorial. Enfin, même si ça, évidemment, c'est de l'écriture, mais ce travail de recherche, d'être allé voir les archives,
c'est la différence, en fait, entre une agence de rédaction classique avec des rédacteurs ou des rédactrices et des communicants et une agence qui est faite par des journalistes.
Là, toute ton équipe est composée de journalistes.
Ouais, c'est des journalistes, documentalistes, archivistes. Mais oui, ça arrive qu'on travaille avec des communicants sur des dossiers très strates ou très conceptuels. Mais 90% de tout ce qu'on produit, ouais, c'est avec des journalistes, des personnes qui ont un point de vue.
Ouais, et qui décryptent aussi peut-être une tendance, voilà, une manière
et qui comprennent
de
aussi
faire,
l'époque,
de consommer, ouais.
Qui ont une lecture fine et sensible du monde qui les entoure.
Donc c'est nécessaire pour toi, du coup, quand tu dis son journaliste, d'être passé par des rédactions.
Pas forcément. Ça arrive aussi qu'on travaille avec des personnes qui ont toujours fait de la pige. Mais oui, il y a des personnes qui sont en rédaction. Il y a des personnes qui ont été en rédaction. Il y a des pigistes. Il y a aussi des écrivains, des autrices. On a travaillé avec des poétesses. L'idée, c'est de couvrir tout le spectre éditorial, mais avec des plumes. Qui ont un point de vue et un regard particulier sur le monde. Et c'est vraiment ce qui fait notre différence et je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui et qui fait qu'on accompagne les marques de façon aussi précise et avec une... Déjà, c'est du sur-mesure pour tout. Il y a pas une seule stratégie, il n'y a pas un seul ton qu'on peut dupliquer aujourd'hui. Tout est sur-mesure pour nos clients. Et la façon qu'on a de traiter chaque sujet, elle est très artisanale, en fait. Il y a pas d'abattage. On vient très rarement nous chercher pour produire des textes où c'est juste du volume, quoi. Ah, il nous faut 1200 descriptifs produits techniques Non, en fait, on vient pas nous chercher pour ça. On vient nous chercher pour, OK, comment est-ce qu'on peut restructurer notre parole pour ci, pour ça? Comment est-ce qu'on peut parler de tel message? Là, on est en train de lancer une nouvelle offre. Comment est-ce qu'on l'appelle? On se rend compte que à Club Med, dans nos resorts, les ados, ils sont sur leur portable dans le hall d'entrée parce qu'ils veulent pas aller dans nos clubs teen. Comment est-ce qu'on peut s'adresser à eux de la bonne façon? Puis ils nous montrent un peu leur texte. Et on dit, bah oui, on peut pas appeler les jeunes. Non, mais c'est des trucs
tout bêtes,
tu vois.
Mais ouais.
Et du coup, tu vois, on leur fait une sorte de douzaine d'ontes de comment est-ce qu'on s'adresse à des ados en ligne et aussi dans la vraie vie, tu vois.
C'est beaucoup de pédagogie, du coup, aussi pour les marques, parce que pour leur faire parfois ouvrir les yeux sur la société dans laquelle on vit.
Évidemment, bien sûr, ouais. Beaucoup de pédagogie. Puis même nous, ça nous fait apprendre plein de choses, tu vois, quand on a travaillé sur ce projet pour les ados, pour Club Med, bah, du coup, on s'est rapproché nous-mêmes de plein d'ados différents en France et à travers le monde pour leur demander ce qu'ils pensaient de telle ou telle expression, de comment ils se sentiraient si un adulte les approchait de telle et telle manière. C'est hyper intéressant, tu vois.
Ouais. Donc, c'est presque l'étude sociologique du monde.
Le langage et les mots, c'est quand même un indicateur assez fort de la façon dont les gens se perçoivent, dont les gens communiquent et de la façon dont les gens se positionnent dans le monde, tu vois.
Donc, et toi, comment t'avais eu à l'époque? Donc, t'as créé l'agence il y a 5 ans. Comment t'as eu l'idée de créer ça? Tu as senti un besoin chez les marques?
Ouais. En fait, donc moi j'avais commencé, donc j'étais responsable de la mode web de Glamour pendant 3 ans et demi quasiment. Ensuite j'étais au Nouvel Obs, j'étais au Parisien. En parallèle j'ai fait pas mal de radio, notamment avec Rins France et ensuite Radio Nova. Puis ensuite j'ai fait pas mal de télé aussi chez Canal Plus où j'ai été chroniqueuse pendant 3 ans. Et en fait j'étais de plus en plus contactée par des marques pour écrire des textes. Des marques de mode, ils ont besoin d'un communiqué de presse, un dossier de presse, ça se fait beaucoup. Et puis, de plus en plus, on me demandait parfois d'intervenir sur des projets éditoriaux un peu plus conséquents. « Oh tiens, on refait notre site, on a besoin de quelqu'un pour écrire les textes, etc. » Donc, je m'y adonnais avec plaisir, mais parfois, souvent, le brief était pas très clair. On me demandait d'écrire des choses, mais on me disait pas vraiment quoi. Ou on me disait pas vraiment, je disais, bah, donnez-moi votre charte éditoriale, quelle est votre tonalité, quel est votre lexique, comment j'écris? Et ils avaient pas de documents. Ouais. Ils savaient pas. C'était au doigt mouillé, c'était dans l'air, tu vois. C'était à moi de capter le truc. Donc je faisais du mieux que je pouvais, en fonction de ce qu'ils avaient déjà fait avant, en fonction de ce que je comprenais de la marque. Mais je me disais, tout ce travail, en fait, de réflexion, il devrait être calé et calibré de leur côté, parce que si j'interprète la chose de la mauvaise façon, ça va pas. Donc je me disais, c'est bizarre qu'ils aient pas ces documents quand même de base. Venant moi de rédaction quand même bien installée et plutôt prestigieuse, pour moi la ligne éditoriale d'un magazine elle est très claire. T'as un rédacteur en chef ou une rédactrice en chef qui va te dire non, nous on se positionne pas de telle manière, on ne prend pas la parole là-dessus, cette expression on ne l'emploie pas, quand on parle de tel et tel sujet on parle plutôt de ça plutôt que ça, c'est très clair, tu sais où tu mets les pieds, t'écris pas de la même façon au Nouvel Obs qu'au Parisien, tu le sais, t'emploies pas les mêmes guillemets, t'as pas la même, les phrases ne sonnent pas de la même façon. Parce qu'on s'adresse à des cibles différentes et que le magazine a une identité très forte. Donc pour moi, c'était assez clair qu'une marque avait aussi une ligne éditoriale et une identité très forte. Mais en fait, non. Et je me suis dit, c'est parce que ces marques, en fait, n'ont pas les compétences en interne pour produire une ligne éditoriale et travaillent avec des journalistes freelance, un peu des gens qui connaissent. Donc ça fait le job. Mais c'est pas carré, en fait.
Il n'y a pas d'identité singulière.
Et t'as pas d'identité singulière. Et puis d'un texte à l'autre, ça varie. Et d'un service à l'autre, ça varie. Et puis j'étais de plus en plus aussi confrontée à des textes que je voyais publiés de la part de marques, qui pourtant aussi sont des marques prestigieuses, où je me disais, on aurait pu faire mieux, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu.
Et certainement que ça manque de cohérence aussi, parfois, si t'as des rédacteurs différents.
C'est un peu patchwork, quoi. Ouais. Et pour faire d'un patchwork quelque chose qui marche, il faut justement avoir une vision éditoriale, un peu plus globale pour pouvoir, ce qu'on appelle retoquer, enfin, en tout cas, éditer les textes de la bonne façon. Tu reçois un texte et tu dis, je suis capable de le corriger et de demander au rédacteur ou au journaliste d'aller dans telle autre direction parce qu'en fait, j'ai assez de recul et assez d'expertise éditoriale pour dire que ça, là, on sort un peu des clous et je sais comment le débriefer. Parce que le truc, c'est aussi que commander un texte à un journaliste, moi, je sais le faire. Je sais exactement quoi dire à cette personne parce que j'ai moi-même été journaliste. J'ai déjà fait des meetings au tout début de l'agence où on mettait les journalistes dans les calls avec nous face à la marque. Ce sont des mondes qui ne communiquent pas. Okay. La marque va parler avec des termes très... marketing et communication, c'est des choses qui sont pas entendables pour le journaliste, en fait.
C'est toi qui t'occupes de faire le brief, le lien entre le client et ton équipe.
Eux, ils sont jamais en contact. Je pensais qu'on allait gagner du temps, et en fait, il y a une déperdition d'informations. D'accord. Parce que ce sont des vases, normalement, qui sont pas communicants.
D'accord. T'as la casquette directrice de clientèle.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai une formation communicante, mais j'ai toujours travaillé en journalisme. Donc, je sais exactement ce que le client veut. Des fois, il me dit des trucs, je dis qu'il me dit, mais en fait, c'est bon, je vois, en fait, où il veut aller, et je suis capable de le traduire en un vrai brief édito, en fait, pour un auteur ou pour un journaliste, et puis aussi en fonction de la spécificité de l'auteur, de sa personnalité, de sa génération, je sais comment l'amener à produire le texte qu'il est censé produire, tu vois. Ça venait beaucoup de mon expérience personnelle d'être de plus en plus contactée avec des briefs pas toujours très clairs et de me rendre compte que clairement les marques manquaient cruellement d'outils stratégiques et sur l'édito. Et je me suis dit moi, je pense ne pas écrire trop mal. Je suis en contact avec beaucoup de gens qui sont des rédacteurs ou des journalistes talentueux et qui ont de plus en plus de temps libre, puisque le monde de la presse se porte pas toujours pas très très bien. Et de l'autre côté, t'as des marques qui ont de plus en plus besoin d'affirmer leur identité, de raconter des histoires, de s'affirmer à travers un magazine papier, à travers un site qui soit cohérent. Toutes les marques aujourd'hui entreprennent des projets ou font des collaborations ou s'inscrivent au sein d'initiatives qui sont hyper intéressantes, mais qu'il faut raconter. Je me suis dit, on va essayer de rassembler ces deux mondes et voir ce qui se passe. Donc, on était au printemps 2018. J'ai créé l'agence en partant de ce constat-là. Et dès le début, ça a été de se dire, par contre, je ne travaille quasiment qu'avec des journalistes, des écrivains et des poètes. C'est pour ça qu'on dit, Plume, c'est la première agence faite par des journalistes. La première agence de rédaction faite par des journalistes.
Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, avec tous les projets, toutes les marques que tu as citées, je pense qu'on peut dire que c'est un succès et que
tu as
réussi à embarquer pas mal de monde.
C'est vrai qu'au début, quand j'en parlais, alors je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a un peu fait peur au début à ma famille. Mais tu vas quitter ton emploi au Parisien pour créer ton entreprise. Enfin, ça paraissait hallucinant.
Ouais, full risque pour eux.
Ah ouais. Puis je suis partie sans rien. Je me suis dit, allez, c'est parti. En fait, je suis assez tranchée. Donc, surtout une fois que j'ai une idée en tête, à partir du moment où j'en parle, c'est que la décision est prise.
Ouais.
Il n'y a pas de... je suis déjà en mouvement.
Ouais, une fois que c'est communiqué oralement et que c'est plus dans ta tête.
Ah, c'est, ouais. Ouais, c'est en fait, c'est que c'est déjà en passe d'eux. Donc, ils ont très vite compris au fur et à mesure que ça servait à rien de me dissuader de faire ce que j'avais envie de faire. Et donc, je me suis lancée à fond, j'ai créé l'entreprise. Et ouais, au bout de 5 ans, je suis assez contente du chemin parcouru parce que on a réussi quand même à, dans un milieu qui est assez niche, à s'imposer comme une vraie référence de l'éditorial aujourd'hui à Paris, et où on travaille aussi avec des marques internationales, puisqu'on écrit en français mais on écrit aussi en anglais, on peut aussi adapter nos textes en espagnol, en italien, en allemand, enfin on travaille dans plusieurs langues, et je me réveille tous les matins en me disant c'est dingue parce que l'écriture et le texte est ma passion. Et c'est ce qu'on me demande de faire tous les jours, et c'est le métier que je me suis inventé. Ouais. Je sais pas si c'est un métier qui existe vraiment, tu vois, de diriger une agence de rédaction. Ouais. Mais
bah, apparemment si, puisque tu
apparemment
l'as créé.
Si.
Ouais, ouais.
Mais du coup, je suis très très contente de l'expertise qu'on a su se forger.
Et c'est marrant parce que tu parles de passion. Tout à l'heure, je te questionnais sur la foot pour savoir si un jour tu pourrais envisager une carrière dans la foot, et tu dis, c'est vraiment mon plaisir. J'ai pas envie que ça devienne la personne dans le cinéma qui analyse le montage,
ouais,
etc.
Ouais.
Là, tu viens quelque part dire ça, que c'est ta passion et que t'en as fait ton parcours pro. Ça, par contre, ça fonctionne et t'as pas l'impression que...
J'ai toujours travaillé là-dedans. En fait, tu vois, j'ai une formation de communicante, mais au final, mon premier job, ça a été à Glamour, et où j'ai tout de suite commencé à écrire. Donc c'est ma passion et c'est aussi mon métier. Mais je sais que j'ai quand même une grosse capacité de travail, et autant je suis capable de travailler et de me mettre à corps perdu dans des projets éditoriaux, c'est aussi peut-être pour ça, c'est que je travaille tellement pour l'agence, que je me dis, si la nourriture peut rester en dehors de ça et que ça reste quelque chose de léger,
faut trouver quand même
c'est
une
cool.
Soupape de décompression ailleurs.
Parce que sinon, j'ai tendance à aller toujours un peu trop loin dans les choses. Et tu vois, je me suis mise à la céramique il y a quelques temps, et puis ça commençait à devenir trop. Tu vois, où j'y passais un temps fou, je commençais à faire des plans sur la comète, à faire d'une activité qui était censée me détendre et où j'étais censée lâcher prise. J'ai réussi à me remettre des règles, à me remettre une pression, à me remettre des objectifs. Et c'est là où j'ai dit, je vais arrêter la céramique et je vais tester autre chose.
Ouais. Tu es une passionnée, je pense. Tout ce que tu testes, t'as envie d'y aller à fond.
Ouais,
et
mais des fois un peu trop.
Ouais.
Tu vois, d'un truc qui est léger et qui me fait juste plaisir, je vais réussir à me remettre un stress et une pression, alors que tranquille, en fait.
Mmh.
Je ne vends pas mes céramiques, j'ai pas besoin qu'elles soient parfaites. Voilà. Donc, non, dans l'édito et dans mon métier, c'est pas... j'ai toujours eu cet équilibre où c'est pas un problème que ce soit mon métier. Et du coup, c'est plutôt le reste où je me dis, il faut que je trouve un équilibre un peu sain.
Ouais. Voilà. Et dans ton métier aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne le plus?
Je crois que c'est d'avoir une équipe. Évidemment, notre expertise, etc. Mais ça a vraiment été le fait d'être capable de fédérer des gens autour de moi, de les voir monter en compétences, de les voir s'épanouir au sein du projet et gagner en autonomie. Et en fait, il faut se dire aussi qu'une entreprise, elle grandit, elle évolue en fonction de... déjà, on gagne en compétences et en force de frappe avec le temps. Mais il y a aussi, elle est aussi embarquée et elle se module en fonction des personnalités qui la rejoignent. Et aujourd'hui, je suis très très fière de l'équipe qu'on a, de les avoir vus grandir, s'épanouir au sein de divers projets. Et oui, je pense par exemple, tu vois, une fille comme Alexane, qui était chez Vanity Fair avant, quand elle est arrivée, on travaillait sur plein de petits sujets, etc. Puis progressivement, tu vois, elle a monté des échelons. Aujourd'hui, c'est notre chef de projet éditorial. C'est vraiment mon bras droit. Elle a un regard et un œil sur les projets qui est hyper intéressant. Mais c'est quelque chose qu'on a dû créer ensemble parce que pareil, elle avait jamais travaillé dans une agence de rédaction, tu vois. C'est un truc qu'on a construit, enfin, presque sa fiche de poste, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on a inventé ensemble.
Oui, vous avez coécrit, ouais.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment, je pense, ce qui me rend la plus fière. Et, la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, j'ai créé l'agence parce que j'avais envie de vraiment me remettre à l'écriture à fond. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, ce que j'aime, c'est être chef d'entreprise. Donc, c'est emmener l'entreprise dans une certaine direction. C'est avoir la vision de ce qu'on fait, comment on le fait, de m'assurer de la qualité extrême de tout ce qu'on rend. Parce que parfois, quand on entreprend, on se dit, je sais pas, mettons par exemple, quelqu'un qui est passionné de food ouvre un restaurant. En fait, la food, ça va t'occuper à une fraction minime de ton temps. Tu vas avoir des problèmes de personnel, tu vas avoir des problèmes avec les avis Google, tu vas avoir des problèmes administratifs. Et en fait, ton métier, ça va être chef d'entreprise.
Ouais.
Ça va pas être restaurateur, discuter avec les clients et servir des canons. Ça va être sympa de temps en temps. Mais ton vrai métier, ça sera chef d'entreprise. Donc, est-ce que tu vas autant aimer être chef d'entreprise d'un restaurant que d'être restaurateur, tu vois. Et ma chance, ça a été de me dire, au début, j'ai créé l'entreprise pour écrire. Mais ma chance, c'est qu'en fait, j'adore être chef de cette entreprise.
Maintenant, ouais, c'est quelque chose qui te plaît, là, tout la côté dont tu parlais, ouais. Au-delà de l'écriture, ouais. L'admin, gérer le personnel,
ouais,
etc.
Ouais, ouais. Ouais. C'est, et tu vois, là, par exemple, il y a 3 semaines, 1 mois, j'ai signé nos bureaux. Donc, on achète nos bureaux. Donc il y a ça va être tout un nouveau chapitre.
Gros milestone, hein, bravo.
Gros milestone, ouais. Donc là on a commencé les travaux la semaine dernière, ça va être 4 mois de travaux, donc on va vraiment avoir notre maison de rédaction, tu vois.
Trop bien.
Donc ça va encore être autre chose. On va pouvoir avoir une programmation culturelle, faire venir des invités, des auteurs qu'on aime ou des autrices qu'on aime pour faire des lectures, des talks, etc. Donc c'est encore autre chose. J'aimerais bien que 2024 on lance un magazine. Donc tu vois, t'as plein de sujets sur lesquels tu peux travailler qui participent en fait à l'aura et à tu vois la direction que peut prendre une entreprise qui moi me fascine et me passionne et qui peuvent aller en fait bien au-delà des mots. Donc ouais.
Intéressant. Et parce que c'est pas forcément évident, toi qui as une formation de communicante, comme tu disais, passer par des rédactions, d'avoir le sens business, du coup, le rapport à l'argent, comment on vend, comment on pitch ses compétences auprès d'une marque. Ça, est-ce que du coup, tu l'as appris sur le tas
Le tas, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas d'entrepreneur ou d'entrepreneuse au sein de ma famille.
Ouais, donc, c'est pas évident du coup d'avoir ce rapport à l'argent, de réussir à faire un devis. Combien ça vaut ce que je suis en train de créer?
Alors, ce que j'ai fait au début, j'ai créé un document Excel. J'ai listé, c'était au tout début, hein, j'avais encore travaillé sur 0 projet. Et je me suis dit, effectivement, comment je vais tarifer ce que je fais. J'ai fait une liste de toutes les missions auxquelles je pouvais penser qu'on pouvait me demander. Communiqué de presse, dossier de presse, charte éditoriale, trouver un concept, nommer un événement, nommer un produit. Tout. Puis après, j'ai fait une sorte de fourre-tout, genre une journée de travail, voilà, si je suis chez moi, une journée de travail si je suis chez le client. Voilà. Ensuite, j'ai fait des colonnes par typologie de client. Okay. En disant, si c'est un ami qui me dit, ouais, je lance ma marque, vas-y Lauriane et tout, j'ouvre mon bar, tu veux pas écrire les trucs sur mon menu. Et puis, donc, ami, marque qui se lance façon vraiment start-up, on n'a pas trop de budget, marque classique, marque premium et luxe.
Okay.
Et je me suis dit, je vais mettre des prix qui correspondent à ce que j'ai... Alors, j'ai appelé un peu des gens, des journalistes, des trucs. Toi, tu facturerais combien et tout. Je me suis dit, moi, je débute. Je vais mettre des trucs, un tout petit peu en dessous, peut-être, de ce qu'on m'a dit. Et donc, j'ai mis tout ça dans les cases. Donc, au début, voilà, les premières missions, du coup, je regardais. Ah, tiens, Claudie Pierlot a besoin de tel truc.
Dans quel cas, okay, je viens, mais ouais.
C'est marque premium. Le communiqué de presse est censé être X euros, d'accord. Les budgets étaient validés tout de suite. Tout était validé tout de suite. Ah, c'est super, c'est parti, on y va et tout. Je me suis dit, j'ai fait ça pendant 6 mois. Puis après, je me suis dit, d'une, j'ai gagné en compétences. les budgets ont l'air de
passer
de
sans
plaire,
aucun souci.
Voilà, les gens sont très contents. Peut-être qu'on peut, ça peut être un peu plus, etc. Yes. Et en fait, j'ai ajusté comme ça jusqu'à trouver le bon équilibre. Un jour, j'ai envoyé un devis, on m'a dit ah,
là, ça...
c'est un peu cher pour nous.
D'accord.
Et je me suis dit d'accord, ok. Donc ça, c'est peut-être un peu trop, ou peut-être que dans la prestation, moi, je peux enlever ça et ça qui était peut-être pas nécessaire pour revenir à quelque chose. Et en fait, maintenant, j'ai... Alors, ce tableau, je l'utilise plus du tout parce que c'était vraiment pour m'aider à comprendre le marché.
Ouais, et puis toi aussi construire ton...
Et construire mon offre.
Ouais.
Aujourd'hui, franchement, je sais pas, je pense que j'ai peut-être un sixième sens pour ça. On me parle d'un projet, je sais déjà combien ça coûte.
D'accord.
Je...
Tu vois déjà le nombre de
ouais.
jours à passer,
ouais, je
les
sais,
équipes
exactement.
À mettre dessus et tout. Ouais. Okay.
Je vois le aussi en fonction du type de client. Alors, il faut savoir que plus le client est... Alors, j'aime pas dire petit, mais plus le client, c'est son projet, plus tu vas y passer du temps.
Ouais. Parce qu'il va vouloir faire beaucoup d'allers-retours, revenir dessus.
C'est la
ouais.
première fois qu'il met quelqu'un là-dessus. Même si pour nous, en tant qu'agence, ça reste un petit budget. Pour lui, c'est un gros investissement. Donc, les projets sur lesquels on passe le plus de temps sont ceux souvent qui nous rémunèrent le moins.
Ouais.
Mais c'est aussi ce qui nous permet de Enfin, pour moi, c'est toujours hyper important de continuer de travailler aussi avec des marques qui sont pas forcément établies.
Ouais.
Parce que justement, on n'a pas du tout le même rapport entre quelqu'un où c'est sa marque et c'est un truc où émotionnellement, c'est très, très fort et des marques où bah, c'est des personnes qui sont employées par la marque et qui peut-être dans 4 ans travailleront pour une autre marque. Donc... Ouais, c'est j'essaie d'avoir un équilibre entre les clients de grosses marques, de grosses maisons ou de gros groupes, des marques de taille plutôt moyenne et des plus petits projets, mais qui sont plutôt des projets auxquels on croit et où on a hyper envie de bosser avec eux. Voilà.
Trop bien. On va revenir et finaliser cette thématique de l'art avec du coup des inspirations et des bonnes adresses.
Ouais.
Donc je vais faire une seule et même question avec 3 questions. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes sources d'inspiration donc peut-être je sais pas soit des newsletters ou des comptes Instagram ou des personnalités que tu suis qui t'inspirent au quotidien et qui te permettent de te nourrir de bonnes idées pour tes projets. Peut-être de tes dernières lectures aussi qui peuvent faire partie de ou tes livres phares, en tout cas ceux qui ont marqué...
T'as encore 2 heures devant toi.
on va essayer d'être synthétique. Et puis du coup, on va finir par des bonnes adresses artistiques. Donc, 3 questions okay. en une, 5 minutes top chrono.
Ok, alors c'est la première, quelle est-elle?
Tes inspirations, tes sources...
d'inspiration, waouh. Franchement, mes sources d'inspiration, c'est les discussions que j'ai avec mes meilleures copines.
Ok.
Vraiment, c'est ma source d'inspiration numéro 1. J'ai la chance inouïe d'être entourée par des femmes qui m'inspirent, mais au-delà de l'entendement. Et franchement, je sais pas comment je ferais sans elles. Manon, Marion, les discussions que j'ai avec ma mère, c'est des trucs où je peux être épuisée, fatiguée. La moindre discussion qu'on va avoir va être d'une richesse et d'une profondeur telle, et d'une intimité et d'une transparence telle, que je peux que être transportée, en fait. Et elles ont toutes des avis très différents. On est toutes des femmes très différentes. J'ai un groupe d'amis extrêmement hétérogène. On s'habille pas pareil, on n'a pas le même rapport à l'argent, on vient pas des mêmes milieux, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas les mêmes vies, et on n'a pas les mêmes rêves. Et du coup, c'est toujours extrêmement important pour moi de... Et on se respecte beaucoup, tu vois, personne n'essaye de changer personne, personne n'a raison plus qu'une autre. Mais ouais, toutes nos conversations sont assez assez riches, assez philosophiques et me permettent à chaque fois de voir le monde différemment. C'est les seules personnes autour de moi qui arrivent à me faire changer d'avis ou remettre en question la façon que j'avais de voir quelque chose.
Ok.
Et je trouve ça hyper précieux.
Eh bien, écoute, c'est une chouette réponse. Ensuite, on passe du coq à l'âne, évidemment, tes livres qui t'ont marqué, évidemment, en étant communicante, en écrivant des textes pour des marques. J'imagine que tu lis beaucoup. Est-ce qu'il y a des textes qui t'ont marqué dernièrement ou alors à l'échelle de ta vie dont tu as envie de nous parler?
Ouais. Ben, récemment, là, j'ai acheté... en fait, j'ai un problème avec l'achat de livres, hein, c'est que j'en achète trop. De quoi est-ce que je pourrais te parler? Tchit-tchit-tchit-tchit. Il y a un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Caps Lock. C'est un gros livre que j'ai acheté à LA. Donc, je l'ai pas encore tout à fait fini, mais il est, j'en suis quasiment à la moitié. Donc, ça s'appelle Caps Lock, How Capitalism Took Hold of Graphic Design and How to Escape from It. Et en fait, il t'explique donc comment le capitalisme a influencé le design graphique, la typographie, la mise en page, la direction artistique, la façon qu'on a de construire un site internet. Et donc, en fait, il parle vraiment du tout début, de comment on faisait pour designer une pièce de monnaie, tu vois, jusqu'à aujourd'hui où, en fait, toutes les choses, tout se ressemble un peu et on a une lecture, je sais pas, d'une affiche ou autre qui est censée être la plus vendeuse, en fait, et la plus commerciale possible. Et ensuite, il propose plein de pistes de réflexion pour revenir à une direction artistique et à un design graphique affranchi des codes du capitalisme, qui sont des trucs qu'on a complètement intégrés, en fait.
Génial. Ouais, ça a l'air passionnant.
C'est absolument passionnant. Un magazine que j'aime beaucoup, tu vois, c'est bien, toi, tout est devant moi. Un magazine que j'aime beaucoup, c'est le magazine Tools. Donc là, c'est le numéro 3 qui vient tout juste de paraître. Et en fait, c'est une directrice artistique super qui s'appelle Clémentine qui a créé Tools, qui est d'ailleurs la directrice artistique que j'ai choisie pour faire l'identité de mon club de vélo. Uh-huh. Et en fait, Tools, elle s'intéresse dans chaque numéro à une technique. Donc, par exemple, le premier, je crois, c'était sur weaving, le tressage.
Okay.
Donc, t'avais un reportage sur les paniers tressés. T'avais un reportage sur ce que veulent dire les coiffures des jeunes filles mormones qui se tressent les cheveux avec des trucs hyper compliqués. Là, c'est sur folding, tout ce qui se plie.
D'accord.
Donc, tout ce qui se plie, bah voilà, le plastique qui se plie. En fait, c'est un parachute. Comment tu plies un parachute pour qu'il se déplie de la bonne façon?
Donc ça va de la technique artisanale à l'architecture,
oui,
au sport, à la mode, ok.
Exactement.
Avec un graphisme très très chouette.
Un super beau graphisme. Bah tu vois des éventails qui se plient dans une poche. Et donc t'as des tentes. Voilà, la culture de la tente et du camping, la tente deux secondes, etc. Donc c'est vraiment à chaque fois une technique. Il y en avait dans le tout premier, je crois que c'était sur le plastique moulé.
D'accord.
Le okay. plastique moulé. Donc voilà, c'est je trouve ça trop bien. Et puisqu'on est juste avant on parlait un peu de choses artistiques, j'ai acheté ce bouquin qui est génial sur Basse-Coulard. Et en fait, c'est un artiste qui s'est beaucoup qui peignait, qui dessinait et qui a beaucoup qui s'est beaucoup déguisé en femme et qui s'habillait en femme et donc en fait, il se prenait en photo en femme, il était un peu à la rue, mais un peu ami de plein de gens, mais un peu, c'est juste l'histoire de sa vie en fait, et c'est un artiste de dingue.
D'accord. Voilà. Ouais, un personnage.
Donc, un personnage, c'est fou en fait. Je veux dire, on a vraiment besoin des artistes.
Parce et que t'as découvert comment ?
J'ai découvert dans une librairie j'ai découvert lui via ce livre dans une librairie que j'adore qui s'appelle la librairie Sans Titre qui est rue de la Fontaine au Roi, qui est une librairie spécialisée dans les ouvrages d'art, de manière générale tout ce qui est un peu à côté de la plaque, voilà. Je vais pas vous mentir, c'est une librairie un peu chelou et donc j'ai découvert ce truc et j'ai fait what, mais qu'est-ce que c'est que ça, Basse-Coulard. Et puis j'étais au Cameroun il y a 3 ans. Et je suis allée dans une librairie que je rêvais de voir et j'ai acheté Le pauvre Christ de Bamba de Mongo Betty. Donc Mongo Betty, en fait, il a donc écrivain illustre Il a en fait ouvert une librairie qui s'appelle Présence Africaine au Cameroun, et du coup je rêvais d'aller dans cette librairie qui est sublime, qui est à Yaoundé. Et donc j'ai acheté plein de bouquins là-bas, et celui-là, Le pauvre Christ de Bomba, est absolument génial, et ça parle de la présence du christianisme en Afrique subsaharienne, l'action des missionnaires, enfin voilà. C'est assez,
mais écoute, c'est trop
assez
chouette. Quatre livres hyper différents, je pense, qui aussi montrent ta personnalité multiple. Et on va finir du coup par les bonnes adresses artistiques, si tu as voilà une ou deux un ou deux coups de cœur à nous partager.
Ouais. Bah alors la librairie Sans Titre, okay. Vraiment que j'adore, rue de la Fontaine au Roi. Une galerie d'art que j'aime beaucoup, c'est la galerie Christian Berst, qui est dans le troisième, dans un petit passage où je capte jamais de réseau.
Okay.
Ce qui est une très bonne chose parce que à part être dans un avion, il y a très peu d'endroits dans le monde où on a le droit d'être déconnecté. Et du coup, des fois, j'y vais juste parce que je sais que je vais rien capter et que je... Ah, désolé, j'étais dans la galerie, je capte pas. Et en fait, la galerie Christian Berst, elle existe depuis une bonne vingtaine d'années. Et en fait, elle est spécialisée dans l'art brut. Donc, je sais pas si t'es familière avec l'art brut. C'est une... Je peux même pas dire c'est une forme d'art, c'est une vision de l'art, c'est une vue sur l'art. C'est une perception de l'art où, en fait, ils exposent et ils dénichent des personnes qui ne savent pas qu'elles sont artistes et qui produisent des œuvres, mais du coup, qui sont des gens qui sont parfois en institution ou qui sont dans des endroits très reculés du monde, souvent qui ont un rapport au monde social qui est assez particulier, qui sont vraiment des personnes assez retranchées ou en tout cas isolées et qui produisent pourtant des œuvres, mais sans savoir quoi que ce soit de l'art, qui n'ont pas fait d'école d'art, qui n'ont jamais pensé à être exposés ou autre, et donc on appelle ça l'art brut. Et je suis un peu tombée dedans. En découvrant cette galerie, en les rencontrant, j'ai commencé à lire pas mal d'ouvrages sur l'art brut, et c'est absolument passionnant parce qu'en fait, ça redéfinit l'idée même de qu'est-ce que c'est en fait l'art. Tu vois. Là, je suis en train de boire un thé. J'ai cette théière. Bah en fait, si je la mettais sur un piédestal dans un musée, je pourrais dire que cette théière est une œuvre d'art. Donc, bref, c'est absolument passionnant et j'aime beaucoup y aller.
Et tu découvres des artistes qui peut-être ne savent même pas qu'ils en sont.
Et souvent, tu vois, ils vont faire un vernissage et puis l'artiste n'est pas là parce qu'en fait, c'est pas gérable pour eux d'être là. C'est du coup d'autres visions du monde, d'autres expressions d'une sensibilité qui n'est pas je ne vais pas dire perverti, mais qui n'a pas été touché par ce que devrait être de l'art et par l'ego, en fait, tout simplement. Donc, la galerie Christian Berst, la librairie Sans Titre. Je vais pas mal en ce moment à la fondation Cartier-Bresson, donc dans le troisième. En ce moment, il y a une super expo sur une cycliste qui a fait le tour du monde plein de fois quand elle avait 18 ans. Donc, c'est toute une expo sur cette nana qui a fait du vélo toute sa vie. Et puis, peut-être une dernière... je dirais peut-être la BNF à François Mitterrand. J'ai une carte à l'année pour aller passer du temps là-bas, lire des bouquins sans que personne me dérange, et c'est un endroit que j'aime beaucoup.
Trop bien. Mais tu parlais de vélo, donc c'est une super transition avec notre dernière thématique du voyage. Donc tu reviens d'un voyage au Japon, on en parlait juste avant. Cet été, t'es parti à Los Angeles. Celles et ceux qui te suivent sur Instagram t'ont récemment vu à Stockholm, à Naples ou encore à Vienne. Voilà, tu parcours le monde, tu partages tes péripéties sur les réseaux en prenant plaisir à lister les bonnes adresses testées et approuvées sur place. Donc voilà, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'en apprendre un peu plus sur ça, bah, qu'ils te suivent sur Instagram. Comment t'organises tes voyages? J'ai la sensation du coup que souvent tu voyages peut-être seul, parfois avec ton vélo. On va parler après de ton collectif de vélo, mais déjà sur le voyage, quelle voyageuse es-tu?
2023, j'ai beaucoup voyagé. Toutes les années sont pas comme ça. Vraiment. Mais 2023 est une année aussi qui a été très compliquée sur le plan personnel. Donc, je me suis laissée un peu vivre. Je dirais que pour moi, l'une des valeurs clés de la vie, c'est de s'adapter. Et je m'adapte beaucoup dans les voyages que je fais. Je peux autant justement partir en vélo pendant 5 jours et me laver à la bouteille et dormir dans une tente dans la nature que me dire je me fais trop plaisir et je prends un super hôtel, trop mimi, je sais pas où. Je m'adapte en fait.
Ouais.
Je m'adapte. J'aime beaucoup, oui, voyager toute seule. J'ai beaucoup voyagé toute seule cette année et ça m'a fait beaucoup de bien. Au début, c'est un peu bizarre et c'est assez déroutant. Et puis ensuite, on commence à y prendre goût et c'est difficile de revenir en arrière.
C'est quelque chose que tu fais depuis longtemps ?
J'ai commencé à 3-4 ans en vélo. La première fois que je suis partie toute seule, j'étais partie une semaine, j'avais loué un moulin dans le Lot. J'étais partie en vélo d'Agen, j'avais roulé 4 heures dans sous le cagnard, j'étais pas partie à la bonne heure et tout, c'était n'importe quoi. C'était 40 degrés, j'ai cru que j'allais y rester. Bref, et donc j'ai loué un moulin et donc j'ai dormi dans ce moulin pendant une semaine et je découvrais la région en vélo depuis le moulin. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ah, j'aimerais bien aller dans cette Bastide là-bas, mais c'est un peu loin et tout. Donc j'ai fait du stop et tout, puis je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Enfin, ton seul objectif, c'est de t'écouter et de savoir ce que tu veux faire.
Ouais, t'as pas de contrainte extérieure de tes compagnons de voyage.
T'as aucune contrainte, même si, bien sûr, faire un voyage avec quelqu'un, c'est pas forcément une contrainte, mais en fait, ça te pousse à être tellement attentif à ton environnement.
Mmh.
Je sais pas, des fois tu vas au restaurant et puis pendant 2 heures tu fais un déjeuner et t'es avec quelqu'un et en fait t'as même pas regardé vraiment
Le resto, la déco.
Quel était le resto, quelle était la tête du serveur, t'es pas sensible à ce qui se passe autour parce que t'es absorbé dans ta conversation. Et en fait quand tu voyages seul, tu deviens un aimant à contact. Mmh. Mais ça peut être un contact, une discussion avec quelqu'un, ça peut être un regard échangé avec quelqu'un, ça peut être la façon que t'as de percevoir une ville, une architecture, un bâtiment. Tu ouvres tes yeux de façon comme si t'essayais de voir dans le noir, quoi. Tu vas avoir une acuité à ton environnement qui est très difficile à avoir si t'es avec quelqu'un.
Mmh.
Et c'est là que tu te rends compte qu'on est vraiment des êtres sociaux parce que tu es constamment à la recherche d'un contact, d'une connexion avec soit des gens, soit ton environnement. Et puis, je sais pas, je trouve que ça me permet de visiter plus de choses aussi. Parce que, je sais pas, je me dis, ah, tiens, je vais aller là. Tu prends les décisions en un quart de seconde.
Il n'y a pas de compromis à faire.
Ouais, tu t'es dit, ah, je vais aller visiter cette église. Tu t'es dit, je vais en avoir pour 1 heure. Au bout de 20 minutes, ça te saoule. Tu sors, en fait. Tu sais, enfin, tu fais ce que tu veux.
Bien sûr, ouais.
Donc ça, c'est.
Donc une fois que tu testes, tu y prends goût et après t'as envie de faire tous tes voyages.
Après, il y a peut-être des gens qui vont dire j'ai essayé de voyager seul, j'ai pas aimé, hein. Mais c'est vrai que j'ai vraiment adoré.
Et t'as jamais eu aucune difficulté justement à voyager seul, de crainte ou de te sentir seul ou d'être en insécurité.
Cet été, je suis allée 2 semaines à Los Angeles et c'était franchement, c'était socialement le voyage le plus dur parce que. C'est une ville socialement très violente, donc tout est clivant. La différence entre les riches et les pauvres, entre ceux qui habitent loin et ceux qui habitent près, entre ceux qui connaissent les bons endroits et ceux qui les connaissent pas, tout est très binaire. Entre ce qui est très beau et ce qui est très moche, tout se côtoie. Voilà. Et en fait, c'est le seul endroit où je me suis dit waouh, en fait là ce qui me manque c'est de partager ça avec quelqu'un. Parce que je trouve que c'est une ville où c'est très dur d'être tout seul.
Mmh.
Et au bout de 3 jours à déprimer, je me suis dit non mais en fait ça va les problèmes qui n'en sont pas ça te saoule mais va te faire des amis en fait.
Mmh.
Et du coup, je me suis un peu prise par la peau des fesses et je me suis dit va te faire des amis.
Okay.
Et vraiment j'avais l'impression de me jeter d'une falaise tous les jours quoi.
D'accord.
Je me levais le matin et je me disais allez, aujourd'hui il faut que je rencontre quelqu'un.
OK.
Et tous les jours je me disais ça et du coup je sais pas, tu vas dans un café, tu parles avec la table à côté, puis du coup ils te proposent peut-être un truc à faire le soir et en fait, je suis partie de LA en m'étant fait plein d'amis.
Trop bien.
Ouais, les 3 derniers jours, je suis restée 3 soirs de suite avec une bande de 3 Angelinos d'origine mexicaine qui m'ont fait faire le tour des taquerias, des machins. Qu'est-ce que j'ai ri. Enfin, vraiment, je me suis fait des potes. Enfin, ou déjà, après, je les ai invités à Paris. Là, ils vont sûrement venir en décembre. Enfin,
Bah, c'est génial et c'est quelque chose que tu aurais jamais réussi à faire en étant avec quelqu'un en voyage.
Jamais, jamais. Et ce qui est assez fou aussi, c'est de se rendre compte que on se dit mais ah non, mais comment je vais faire et tout. Et en fait, quand t'es tout seul, les gens prennent un peu soin de toi quand même.
Mm-hmm.
Tu vois, ils me disaient bah passe, on va fêter l'anniversaire de Bidule si ça te dit de venir. Et comme ils savent que t'es tout seul, t'arrives, c'est bon, ils te mettent en connexion avec un autre groupe pour que tu puisses discuter. Si t'es deux, oui, tu seras peut-être que vous serez invités tous les deux ou toutes les deux à telle fête. Mm-hmm. Mais tu vas être avec ton binôme un peu en stress, à papoter. Là, il y a un truc.
Il y a une bienveillance qui se crée.
Ouais, les gens se disent bah écoute, si je t'ai proposé ça, je te prends un peu sous mon aile. Ouais, tu vois. T'es toute seule à LA, bon bah. Ça crée des trucs et puis tu te retrouves à être tellement reconnaissant de tout ce qui se passe. Mmh. Quelqu'un te propose un café, c'est le meilleur café de ta vie. Ouais. T'es là, waouh, ouais, génial, c'est trop bien ce que je suis en train de vivre. Tout est démultiplié et c'est un peu le goût de l'aventure, tu vois.
Ouais.
La moindre chose qui va se passer potentiellement ne devait pas arriver parce que t'avais pas spécialement de programme.
Ouais, ouais.
Et
tout est merveille, quoi.
Tout est merveilleux. La moindre rencontre, le moindre truc, c'est. Franchement, c'est
génial.
Ouais, c'est assez cool.
Ça donne envie, en tout cas, de se mettre à voyager seul et de découvrir son soi intérieur. Et
je pense qu'il faut voyager seul. Je pense surtout les meufs là, il faut qu'on. Ça t'apprend des choses sur toi-même et sur notre capacité à dépasser nos peurs, qui est assez assez salvateur.
Et alors, on en vient et on va finir ce podcast par ça. T'as créé un collectif qui s'appelle Free the Cycle. Tu fais du vélo depuis, je pense, pas mal d'années à Paris, dans tes voyages. Et maintenant, avec ce collectif, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Comment ça a démarré et quel impact ça a eu dans ta vie?
J'ai commencé à faire du vélo en 2018-2019. J'en faisais pas du tout avant. J'étais partie en Colombie avec l'une de mes meilleures amies, Marion. Et le même été, on s'était dit, ah, on aimerait bien repartir, mais enfin, on peut pas, on va pas faire prendre l'avion pendant 24 heures tous les 4 matins. Donc, on s'était dit, OK, on voyage, mais on fait un voyage zéro carbone. Et j'avais toujours, moi, mon rêve, c'est de faire le Tour de France des fromages en vélo. Bon, chacun ses objectifs. Et elle m'a dit, bah, vas-y. Viens, on découvre une région. Donc, on a choisi de faire Bordeaux-Biarritz. On n'avait jamais voyagé en vélo. Et en fait...
Ni elle, ni toi.
Non, elle faisait du vélo à Paris, grosse cycliste et tout. Moi, la dernière fois que j'étais montée sur un vélo, j'avais, tu vois, 14 ans, quoi.
Ah oui,
Je faisais pas de vélo à Paris.
C'est déjà un petit peu panache, là, de se lancer là-dedans, quoi.
Ah ouais. Et j'avais même pas de vélo. J'ai emprunté le vélo d'une copine qui était trop petite.
D'accord.
On a accroché des sacoches dessus et c'est des yalla.
Oui, je précise que tu fais quand même 1m80.
Ouais, donc, voilà. c'était pas évident. Mais à l'époque, ça me semblait être une bonne idée.
Ouais, je comprends.
Et donc, on a fait Bordeaux-Biarritz et c'était la meilleure expérience du monde. Donc, on est parti avec une tente et on bivouaquait. Donc, on dormait vraiment dans la nature. Et je sais pas, ce que ça m'a appris sur mon corps, sur la faim, sur la nourriture, sur la nature, sur regarder son environnement, sur les rencontres qu'on a faites. C'était fou, en fait. Et donc, on est reparti ensuite. On a fait la Bretagne. Donc, on a roulé de Quimper jusqu'à Belle-Île. Ensuite, moi, je suis repartie toute seule. Donc, j'ai fait le Lot. Tout récemment, j'ai fait une semaine dans les vignes en Alsace. J'ai fait l'Auvergne. Ça grimpe.
Donc, tout ça en vélo.
Vélo. Full vélo.
Seul ou accompagné.
Ouais, exactement. Et effectivement, on a monté donc avec Marion. On a cofondé un club de vélo qui s'appelle Free the Cycle. C'est un compte Instagram majoritairement et tous les mois on organise une ride en vélo pour les femmes dans Paris ou aux abords de Paris. Et le but c'est vraiment d'expérimenter cette sensation de liberté en fait. C'est déjà d'avoir un groupe pour se motiver et se dire allez on se fait une sortie et c'est cool parce que même si on adore le vélo, c'est pas toujours évident de se dire bon bah là c'est un dimanche matin, je monte sur mon vélo et je vais me faire 70 bornes et revenir, tu vois. Mmh. Alors que quand t'es en groupe, c'est cool et c'est vraiment très décontracté, il y a pas de course à la performance, chacun vient avec le vélo qu'elle veut. Ça peut être un vélo pliant, un vélo électrique, un vélo gravel, ce que tu veux. Et on les pousse vachement à l'autonomie. Donc, si t'as envie d'aller vite et tout, bah vas-y, va vite, perds-toi dans les chemins, puis on se retrouve un peu après. T'as envie d'aller un peu plus lentement, bah il y a un groupe un peu plus lent qui se forme. Et vraiment, on avance comme ça. On pique-nique là où on a envie de pique-niquer. À la fin de l'été, tu vois, on a fait les bords de Marne. On se baignait dans la Marne, on s'est jeté de partout. On est revenu en hurlant. Comme pas possible. Donc c'est vraiment cette idée de créer un groupe.
Parce que du coup c'est des personnes qui ne se connaissent pas et qui potentiellement créent un groupe de copines une fine à la fin de la journée.
Solo. C'est ça qui est dingue en fait, c'est qu'elles sont toutes venues solo. On a fait l'apéro de lancement fin juin et je sais pas, il y a une vingtaine de filles qui ont débarqué. Au début on s'est dit bon, on va être toutes les deux, et en fait il y a une vingtaine de filles qui ont débarqué avec leur vélo et elles étaient toutes seules.
Trop
tu
cool.
vois.
Et c'est les mêmes qui reviennent à chaque édition?
Ouais, on commence à avoir des têtes un peu récurrentes, mais en même temps il y en a des nouvelles à chaque fois. La première ride on était une vingtaine. Non, la première ride on était 16, la deuxième ride on était quasiment 30. La troisième ride pareil, on était quasiment une trentaine. On en fait une demain. On va être à 25 ou 26, je crois.
Okay.
Donc, ça fait quand même des gros groupes.
Ouais, parce que si ça grossit, après, il y a un moment pour apprendre des encadrements.
mais ça se passe hyper bien et c'est assez fou l'émotion qu'on a en revenant de ces rides-là. Franchement, ça te met une énergie. Et juste de voir, en fait, autant de femmes occuper l'espace public, c'est génial. Et on le voit dans le regard des gens qui nous voient passer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, wow, ok. Enfin, et quand tu regardes autour, bah, t'as des groupes de mecs qui font du vélo, t'as des mecs tout seuls, t'as des filles, des fois, ouais, une fille toute seule, ou elles vont être deux, tu vois, qui vont faire du vélo. T'as pas de groupe de femmes. T'existes pas.
C'est ça, l'ambition du projet, c'est d'être le premier groupe de femmes.
On n'est pas les premières. Non, évidemment qu'il y a des groupes de femmes qui se sont créés avant et c'est génial parce qu'elles ont ouvert la voie, mais c'est rare. Et on voit dans le regard des gens que c'est surprenant.
Ouais.
Et j'aime bien cette idée de dire, bah, en fait, ouais, il y a des filles qui se rassemblent, qui se réveillent un matin et qui se disent, on va faire du vélo et qui prennent d'assaut les routes et qui prennent leur espace en dehors d'un restaurant, d'un café, d'un parc, qui sont plutôt les lieux où on nous retrouve d'habitude. Bah là, en fait, on est dehors, quoi.
C'est la prise de pouvoir sur les routes.
Ouais.
En sororité, c'est ça?
Ouais. Ouais,
c'est vraiment ça l'ambition du projet.
C'est vraiment ça. Je pense qu'une fois par an, on organisera sûrement une ride mixte, mais sinon, de manière générale, ouais, c'est plutôt un collectif féminin, quoi.
Trop bien. Bon, en tout cas, on a fait un chouette tour de ta personnalité avec ces trois thématiques. Évidemment, je pense qu'il y a plein d'autres sujets à aborder, mais ça fera l'objet d'un second épisode dans quelques années. Merci beaucoup, Lauriane, pour tout ce partage.
Merci.
C'était vraiment
toi.
Passionnant. Et puis, longue vie à Plume et à Free the Cycle. Et on continue à te suivre sur les réseaux pour toutes les bonnes adresses food.
Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était trop bien.